un info magazine consacré à l'université Lille 1 que vous retrouvez tous les mercredis entre 17h30 et 18h. Sur Radio Campus 106,6 FM, www.campusil.com. Aujourd'hui, dans le cadre de ce magazine, eh bien, nous allons accueillir pour la deuxième fois Jean-François Rey, qui est, on va dire, philosophe associé à l'Université Lille 1, Jean-François Rey.
On peut dire ça, oui.
Voilà. Donc c'est intéressant, on a discuté l'autre jour un peu de la définition de la philosophie. Aujourd'hui, on va peut-être dire actuellement le rapport que vous entretenez avec l'université, en quoi des idées comme celle de justice que vous défendez, enfin que vous traitez plutôt philosophiquement, peuvent apporter un plus donc aux gens de cette communauté de l'université.
Ouais, je pense que c'est une préoccupation qui déborde largement le cadre de cette université et qui peut être audible par absolument n'importe qui, dans la mesure où, dans un état de droit, tout le monde est concerné par la justice. Qu'on l'entende comme il doit s'en citer trois d'institution judiciaire, ou qu'on l'entend au sens philosophique le plus large, à savoir comme le besoin et la volonté d'une société juste. Alors après, une fois qu'on a dit ça, il faut savoir de quelles normes de justice on se réclame, et ça fait l'objet de débats.
Alors, l'an dernier, c'est-à-dire en 2010, on a beaucoup parlé d'injustice. C'était quelque chose qui revenait en surface. Alors, il y avait ce sentiment que la population française, pour une certaine partie d'entre elles, se sentait écartée, peut-être, de la capacité normale d'un individu à exister ou à vivre de la manière dont il souhaite vivre.
Je pense que en France tout particulièrement, mais l'actualité nous montre que c'est bien plus large que ça, on est sensible aux situations d'inégalité. Hein. On est sensible à des injustices chroniques qui font que ça peut par exemple être toujours les mêmes qui échouent à tel niveau, ou que ça peut être une inégalité de traitement par l'État, par le pouvoir, par un état de la société à un moment donné.
Donc cette injustice, elle amène de l'énergie, parfois des révoltes, sinon des révolutions.
Alors, il y a toujours à la base un sentiment d'injustice. Un sentiment d'injustice. Dans le livre que j'ai coordonné sur le visage de la justice, qui est sorti en 2010, il y a la dernière partie, est consacrée aux émeutes de banlieue de novembre 2005, qu'on a appelées émeutes de l'injustice. Mais ce que je voudrais faire remarquer, c'est qu'un sentiment d'injustice n'est pas suffisant. Il faut que ce sentiment d'injustice se trouve des raisons, au sens philosophique, c'est-à-dire qu'il trouve des arguments et qu'il expose réellement sur la place publique pourquoi et comment se génère ce sentiment. Alors bien entendu, s'il s'agit de sentiments d'injustice dans des populations qui se sentent reléguées ou qui sont de fait reléguées dans l'espace public, eh bien ça donne des révoltes. Mais l'actualité d'aujourd'hui, au Moyen-Orient et au Maghreb, nous montre effectivement que ce sentiment d'injustice peut être mobilisateur. Mais mobilisateur en ce sens que, je vais reprendre aussi les gros sabots, mais c'est quand même intéressant, les définitions de Lénine. Une révolution, c'est quand ceux qui sont au pouvoir ne peuvent plus gouverner comme avant, et quand ceux qui sont en bas ne veulent plus être gouvernés comme avant. Et c'est précisément ce qui se passe aujourd'hui en Égypte, ce qui s'est passé de manière éclatante en Tunisie un peu avant. Donc le sentiment d'injustice peut couver pendant des années, voire des dizaines d'années, avec des moments de fatalisme, avec des moments de très grande violence. Et là, ce que l'on découvre aujourd'hui, c'est une population qui aspire à la liberté et qui met en avant, effectivement, sa soif de justice.
Donc, dans ces, je veux dire, prises de conscience de l'injustice, il y a des figures un peu leaders qui dénoncent, qui argumentent, je veux dire, qui montent d'une certaine manière à la population pour résister, pour réagir. Donc on a des gens qui sont révélés un peu ces dernières années sous cet angle de fédérer les gens, soit victimes d'injustice, soit qui avaient un rôle dans la société qui permettent de la combattre.
Pensez à qui en particulier ?
Quelqu'un qui a écrit un livre vendu à 3 euros et qui a fait le tour de France très très vite, par exemple.
Mmh, oui, bien sûr. Le livre de Stéphane Hessel, Indignez-vous, représente, je crois, un rappel nécessaire. Alors ça, c'est pour les démocraties vieilles. Un rappel nécessaire du passé, à savoir que ce sur quoi aujourd'hui en France on fait l'impasse de manière résolue, c'est sur le programme du Conseil national de la résistance de 1945, que ce soit en matière éducative, en matière de justice des mineurs, en matière de sécurité sociale, enfin bon, vous voyez bien. Là, je pense que ce petit livre très court est un appel intergénérationnel et un rappel des normes, justement, des normes de justice sur lesquelles reposait jusqu'à présent notre édifice social depuis, disons, un peu plus d'un demi-siècle. Et je crois que ce qui se passe en France, ce qui se passe aussi en Égypte ou dans d'autres pays, que je ne veux absolument pas mettre sur le même plan, mais ce que peut-être l'on voit aujourd'hui émerger, c'est le sentiment que les choses vont très vite et que ce que l'on croyait le plus assuré, hein, dans notre système d'indemnisation, notre système d'assurance, notre système de justice sociale, eh bien, il peut être menacé. En revanche, en Égypte, les témoignages qu'on peut lire ou entendre ici ou là, c'est au contraire l'idée que les promesses que la modernité fait miroiter aux jeunes éduqués, et s'il y a ces mouvements-là en Égypte et en Tunisie, c'est parce qu'il y a une jeunesse éduquée beaucoup plus importante qu'avant. Eh bien, l'avenir leur est bouché. Voilà, ici et là, deux angoisses motivées par l'idée de la justice.
Alors, il y a un autre pays dont on n'a pas encore parlé, mais qui a aussi des réactions assez fortes en ce moment, c'est l'Islande, où la population a remis en cause le gouvernement, le pouvoir en place, et finalement qui vit une forme de révolution un petit peu comme ce qui s'est passé ou qui se passe plutôt en Tunisie actuellement. Donc quelque part il y a des faits comme ça qui sont plus ou moins mis en valeur par la presse et d'autres dont on parle beaucoup moins.
Oui, mais c'est un peu le lot de l'actualité. Qui aurait parié sur la Tunisie il y a un mois et demi, hein? Ce que l'on rabattait à l'opinion depuis des années, c'est que les pouvoirs autocratiques du Moyen-Orient était le meilleur rempart contre l'islamisme, et c'était suffisant pour ne pas aller voir ce qui se passait dans les villes, que les touristes pouvaient voir s'ils daignaient quitter les hôtels au bord de la plage.
Donc dans cette idée de justice, est-ce qu'il y a quelque chose d'universel, et qu'est-ce qui serait le socle commun de l'humanité, on va dire ?
Tout ce qu'on peut dire, c'est que les théories du droit naturel, telles qu'elles ont commencé à émerger à partir du XVIIe siècle, donc dans ce qu'on appelle la modernité, ont fait effectivement le tour de la Terre. Et la référence récurrente en Chine ou ailleurs aux droits de l'homme et la vocation des droits de l'homme chez nous, à tout bout de champ, perd un petit peu de son mordant, de son tranchant. Il n'en va pas de même ailleurs. Ailleurs, au contraire, il s'agit de revendications qui sont motrices. Donc il ne s'agit pas d'invoquer sans arrêt les droits de l'homme, il s'agit de voir qu'il y a des normes de justice qui se rapportent aux droits naturels. À la distinction que font les philosophes entre droit positif au pluriel et droit naturel au singulier, c'est que le droit naturel, c'est le droit de tous les hommes où qu'ils soient. Et les droits positifs, ce sont les modulations historiques que le droit, les institutions judiciaires, l'État ont instaurées à tel moment de l'histoire.
Voilà, donc on peut parler de justice relative avec des droits liés à des lois qui sont propres à chaque pays.
Il y a effectivement des lois propres à chaque pays, mais il y a un référent universel qui est le droit naturel. Maintenant, certains gouvernements vous diront que c'est une vision européocentriste, occidentale, qui n'a pas cours ailleurs, en Extrême-Orient ou ailleurs. Donc vous avez des gens qui tiennent ce discours, à droite comme à gauche, disant que les droits de l'homme, ce sont les droits, finalement, des blancs civilisés du vieux monde.
C'est un peu vrai.
Oui, c'est un peu vrai dans la mesure où, bien entendu, c'est en Occident que les premiers textes et les premières révolutions anglaises, françaises et américaines ont vu le jour. Mais si vous êtes attentif à ce qui se passe sous nos yeux aujourd'hui, en Égypte par exemple, vous voyez bien qu'on n'est plus dans cette conception européocentriste. Ce que réclament les Égyptiens, c'est exactement la même chose que ce que réclamaient les Polonais en 1980-81, que ce que réclamaient les Portugais en 1974 et les Français en 1989.
Donc, quand on parle de la justice, ou celle que nous, on prétend être la norme ou la justice qu'on voudrait transposer, j'allais dire vendre, mais c'est pas le bon mot, mais presque imposer à des pays qui, eux, ont leur propre civilisation. Il y a des chocs de culture aussi dans ces idées qu'on a, nous, de la justice, et qui sont pas forcément, qui ne cadrent pas forcément avec des fonctionnements de pays qui sont dans des civilisations très différentes.
Bien sûr, les normes de justice sont appréciées différemment selon la structuration sociale du pays. Bien sûr, c'est précisément ce qu'on appelle droit positif. Et si je reprends cette distinction entre droit naturel et droit positif, il y a effectivement des codes. Prenons par exemple les codes de la famille pour certains mouvements islamistes ou dans certains pays comme l'Algérie. Le code de la famille algérienne n'est pas le code de la famille français. Voilà des distinctions dites de droit positif. Donc si vous voulez, le dialogue entre les cultures, c'est justement de découvrir ce qui, par-delà les droits positifs, est à faire valoir. Par exemple, l'égalité homme-femme, des choses comme ça.
Dans le droit positif, on peut trouver une relation étroite entre je veux dire, la vie pratique, la morale et la religion.
Quand je parle de droit positif, je prends droit au sens le plus strict du terme, à savoir les codes, les différents codes qui structurent une société.
Mais ils sont induits par une référence morale ou religieuse parfois ?
Oui, ils peuvent l'être. C'est tout le combat, justement. Je parlais tout à l'heure du code de la famille. Il est investi et défendu d'une certaine manière par certains courants religieux, d'une autre manière par des courants laïques. Et la France a connu ça tout au long du XIXe siècle. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, en France particulièrement, c'est parfois des détournements de sens de ces droits. Vous voyez par exemple l'usage qui est fait parfois de la laïcité par certains, laïcité telle qu'on l'entend en France, par certains mouvements d'extrême droite, ou des collusions étranges entre, entre laïcards durs et extrême droite, montre que précisément il ne faut pas être dupe des étiquettes, il ne faut pas être dupe de ce qu'on met en avant. Et de ce point de vue-là, effectivement, on voit bien que ces questions ne sont pas tranchées définitivement. Il y a encore des combats à mener. Et il y a encore des pièges à déjouer.
Est-ce que la justice a autant à faire avec le matériel qu'avec, qu'avec la réflexion, la pensée, le spirituel ?
Oui, la justice a été longtemps considérée comme un attribut divin. Après tout, pour les religions monothéistes, et il faudrait nuancer pour chacune, mais il y a quelque chose à la fin de la vie comme une sanction, qui vient même racine que sainteté, qui consiste à dire, ben voilà, on juge que ta vie a été bonne parce que le plateau de la balance penche du côté du bien. Et cette idée d'une justice divine, qui est corollaire de l'idée de loi de Dieu, en Europe, a fait l'objet d'un lent processus de sécularisation qui a pris plusieurs siècles et qui fait qu'aujourd'hui, on peut détacher tranquillement la justice humaine, celle de tous les jours, de son référent divin. Ce qui n'est pas forcément le cas ailleurs.
Non, cette justice, souvent, bon, il y a des, par exemple des tribunaux pour l'exercer en fonction des règles, etc. Mais certaines civilisations, par exemple le confucianisme, dit qu'on n'a pas à juger, que l'homme n'a pas à juger, puisqu'en fait, quand il juge quelqu'un, il ferait mieux de voir d'abord en quoi il imite la personne qu'il est censé juger. Il y a tout ce rapport entre ce qui relève de la personne et ce qui relève de la facilité à juger quelqu'un. C'est plus facile de juger les autres que soi-même.
Oui, mais là vous jouez sur les mots, parce que le Christ lui-même disait ne jugez pas, donc c'est dans les évangiles, c'est clair. Bon, ce que les trois quarts des gens font la plupart du temps, bien sûr, quand on parle de juger la conduite de quelqu'un, bon. Mais la justice, c'est pas ce type de jugement-là. La justice, c'est au contraire tout un processus par lequel on évalue, par lequel on passe à travers des critères, non pas la conduite des gens, mais les conséquences que peut avoir sur la personne humaine de cette conduite.
Est-ce qu'on pourrait imaginer dans tous les pays un tableau de bord de la justice avec des paramètres, on met voilà, tel pays à ça, ça, c'est 5, 10, 8, et on fait un bilan de chaque pays comme ça?
Non, c'est une caricature pour laquelle on... De quel droit ferait-on ça? Parce qu'on est soi-même... Il n'y a pas de point de vue de Sirius, hein, ça n'existe pas, ça. On est tous de quelque part, donc on ne peut pas s'ériger en tribunal. Je suis en train de travailler sur une question de justice, sur la question du jugement de l'histoire. Hein. Autrefois, les révolutionnaires, quand ils étaient mis en prison pour leurs faits héroïques, disaient comme Castro, l'histoire m'acquittera, je serai jugé par l'histoire. Et aujourd'hui, au contraire, on veut juger. Par exemple, il y a des voix qui s'élèvent pour dire maintenant, il faut juger Ben Ali, il faut juger Moubarak. Mais... c'est pas ça le problème. Peut-être ce sera le problème des historiens quand tout ça aura pris une autre tournure. Mais c'est pas la justice, ça.
Donc pour revenir à votre livre qui s'appelle
Visage de la justice, au pluriel.
Qu'est-ce qu'on peut y trouver et qu'est-ce qu'il peut apporter à quel type de lecteur?
C'est un ouvrage collectif donc qui regroupe à la fois des cycles de conférences, et toutes les conférences du cycle n'ont pas été regroupées dans l'ouvrage, mais les principales. Une journée d'études consacrée, je le disais tout à l'heure, aux émeutes de l'injustice de novembre 2005 en France, et une partie sur justice divine et institutions humaines, donc sur la question du théologico-politique aujourd'hui. Voilà. Donc on peut trouver des éléments de réflexion philosophique. Il y a des textes de philosophes, Bernard Bourgeois, Pierre Trottignon, Jean-Marie Brevard. Il y a des textes écrits par des acteurs, des travailleurs sociaux, des personnels de la justice, le procureur de Lille, etc. Et il y a des textes d'historiens sur la question du théologico-politique en Europe, en Angleterre, en France et au Moyen-Orient. Donc ce sont des livres qui reflètent l'état des réflexions des uns et des autres. Donc il y a forcément des lacunes, il y a forcément sur cette question-là des points de vue qui ne sont pas apparus. J'ai essayé de lier la sauce en essayant au mieux de faire apparaître ce qui s'était passé pendant une année ici à Lille.
Alors, donc vous êtes appuyé, si on prend le problème des émeutes en banlieue, sur des faits, on va dire, sur des moments d'histoire. Si on fait le bilan quelques années après de ces banlieues et de la psychologie des gens qui y habitent, et un parallèle justement avec cette injustice qui finalement perdure, voire s'amplifie, si on voit les écarts de ressources, de revenus entre les différents gens, entre les différentes personnes, notamment de ce pays. Pourquoi ça s'est calmé dans les banlieues? Qu'est-ce qui a changé? Et bon, est-ce que finalement la capacité de révolte est toujours intacte, mais couve actuellement?
Pour répondre à votre question, je distinguerai deux choses. Je distinguerai l'injustice chronique, hein, à savoir effectivement le fait de vivre dans des quartiers un peu relégués, un peu abandonnés. Ce sentiment de concentration aussi de situations sociales précaires, le taux de chômage des jeunes, le nombre de familles monoparentales, etc. Et puis, ce qui a motivé, ce qui motive toujours les émeutes de l'injustice, c'est l'inégalité de traitement. L'injustice subie dans le traitement que l'on impose à telle ou telle personne et qui soulève le sentiment de révolte. Donc ça peut repartir à n'importe quel moment.
le fait que certains juges parfois soient jugés justement sur des dérives comme à Béthune, au tribunal de Béthune actuellement, ça peut aussi créer un sentiment d'injustice, voir que finalement, qui a les moyens peut se défendre beaucoup mieux que quelqu'un qui est dans une société, une personne qui n'a pas de relations, pas de moyens économiques.
Oui, tout à fait, bien sûr. La question de la justice, disait Platon, c'est d'essayer de juger les gens le plus près possible de l'égalité de conditions. C'est-à-dire que si vous avez en face de vous un justiciable, un prévenu qui est habillé en prince, ôtez-lui ses vêtements de prince et mettez les mêmes vêtements au juge et au justiciable. Le pire ennemi de la justice, c'est effectivement toute cette séduction, cet apparat, ce poids social des individus. C'est vrai. Mais je pense que le principal problème de la justice aujourd'hui dans ce pays, ce n'est pas celui-là. Il peut toujours y avoir, il y en a toujours eu des juges corrompus ou... Ça, c'est inévitable. Par contre, prétendre dire aux juges ce qu'ils doivent faire, et donc les juges doivent, et ils le font régulièrement, se défendre d'être instrumentalisés par le pouvoir politique. Alors, tantôt on leur reproche, comme aujourd'hui, de n'avoir pas fait tout ce qu'il fallait pour éviter la récidive d'un jeune multi-condamné, multi-récidiviste. La propension, la facilité avec laquelle on s'en prend aux juges, aujourd'hui, dans la classe politique, me paraît beaucoup plus préoccupante.
Voilà. Mais c'est sur ce mot, donc, cette justice puisse s'exercer à tous les niveaux, dans les meilleures conditions et avec le respect qui s'impose, que nous allons nous quitter, Jean-François Rey.
Merci beaucoup.
Bonne soirée.
Au revoir.